Paris, 27 mai 1980. Cher Marcel Moreau, j'ai reçu le livre en pleine poire. On a de la peine à s'en remettre. Une transe frénétique, tous les gonds sautés par le mouvement de l'hélice, une chouette purge, tout à fait salubre, hautement tonique. C'est incroyable que vous puissiez mener pareil train sans reprendre haleine au long de 120 pages, au bout de quoi vous vous déclarez prêt à repartir de bon pied. Vous nous stupéfiez. Amitié, Jean Dubuffet. C'est en ces termes à la fois élogieux et empreint d'une véhémence propre aux écrits de celui qui loue, qu'un des plus grands artistes du XXe siècle, Jean Dubuffet, initiateur de l'art brut, s'adresse à son ami de longue date, l'auteur belge Marcel Moreau. Cette courte missive permet de saisir la puissance galvanisante qui émane de la lecture de toute œuvre de l'écrivain originaire de Boussu, qui représente également pour le peintre et plasticien français l'ardeur, l'incendie et l'ouragan. Ce dernier, né en 1933, a en effet élaboré une œuvre marquée par une éthique de l'excès, selon les mots de Marc Quashburn. Auteur d'une littérature sauvage, hybride et irrévérencieuse, qui échappe à l'espace des taxinomies génériques ainsi qu'à celui des cénacles bien-pensants, il a pu dresser une œuvre où affleure de manière cohérente et constructive différents paradigmes de l'exaltation et du débordement. Ces deux notions se sont toujours trouvées au cœur de l'écriture et de la pensée de l'auteur de « Julie ou la dissolution », qui chérit tout particulièrement l'intranquillité, le non-pacifié, la fulgurance et la frénésie. En 1967, paraît d'ailleurs son « Chant des paroxysmes », essai qui se présente comme un traité de la démesure. Allergique à tout conformisme, ayant, selon ses dires, obéi davantage tout au long de sa vie aux pulsions plutôt qu'aux ordonnances, Moreau, par son amour immémorial de l'interdit et depuis son enracinement dans le folle, dans le perturbé, n'a tenu compte d'aucune prescription ou convenance. Il s'est toujours fait le chantre de la transgression. Comme il le clame dans son essai « Les arts viscéraux », la littérature n'a de sens à mes yeux qu'en tant que stimulation, tracassement, dynamitage de l'être conventionnel. Poète barbare, rustique et hérétique selon ses termes, il a ainsi développé une pensée viscérale, imprégnée par la volonté d'un retour aux sensations brutes et immédiates de l'existence humaine. Cette pensée vise, je cite, « à culbuter la bienséance, à soulever et pulvériser les structures surannées, de même qu'à envoyer le savoir loin au-delà de lui-même. » Au sein du pays de la mesure en toute chose, comprendre la France, où règne une configuration maniaco-cartésienne à laquelle il n'a cessé de s'opposer, il a dès lors promu une philosophie en marge des philosophies, convulsive et radieuse, incarnée, dont la valorisation de l'instinct constitue le principe fondamental et au sein de laquelle l'enfiévrement et l'hérétisme se présentent comme des caractéristiques centrales. Le caractère frénétique et incandescent des textes et de la langue de Moreau, leur intensité, leur intensivité, sont liés en premier lieu à leur ancrage charnel. S'il écrit, je le cite, « avalancheux, chaudement, par brûlure », c'est parce que le corps, conçu comme un chant hirsute et volcanique, marque de son sceau sa poétique. Il en est le ferment. Je cite « Mon écriture reproduit dans son rythme, du premier livre au dernier, les mouvements les moins pacifiques du corps. Et parmi eux, la montée du désir, ses secrets tressaillements, ses accents convulsifs, ses hausses de chaleur, ce quelque chose de glandulaire qui, jusque dans son classicisme, scande le passage des mots du corps charnel dans ceux du corps verbal. » Fin de citation. Plus précisément, c'est l'instinctuel, ce fond vital, irrationnel et exalté de l'homme, possédant une énergie élémentaire de l'ordre d'une brûlance intérieure, qui fait émerger l'exaltation et le débordement comme motifs centraux de son écriture. Il est autant question, comme l'auteur d'une philosophie à coups de rein le reprend à l'envi dans nombre de ses textes, d'un corps charnel dans le corps verbal que d'un corps verbal dans le corps charnel. En d'autres mots, le charnel et le viscéral, exubérant, sont à l'origine de l'écriture, de même que Moreau leur donne une parole et une forme à travers ses textes. À l'avenant, dans ses cahiers caniculaires, assure-t-il, je cite, « La fournaise, il faut comprendre ici le tréfonds instinctuel, a produit le verbe, et chacun de mes mots reproduit la fournaise là où il surgit et où il m'enfièvre. Et je ne sais plus très bien aujourd'hui qui de la fournaise ou du verbe crée l'autre, qui de l'énergie du feu ou de l'écriture infernale me donne le sentiment d'être la proie d'une création ininterrompue. » Fin de citation. Le corps et ses tribulations sont ainsi engagés en totalité dans l'acte d'écrire. Les mots y sont dits gonflés de sens et de sang. Jéjus, personnage d'une des œuvres de Moreau, qui apparaît comme un de ses doubles fictionnels, allègue que, je cite, « le verbe est une longue histoire charnelle qui est propulsion et pulsion, qui est un débordement s'enroulant au mieux sur une vérité, un style. » Fin de citation. C'est dès lors dans cette lignée d'une écriture rageusement vitale, fougueuse et humorale, que Moreau, disant alphabétiser les instincts, déclare ses livres pétris de chair, de sang, de souffle et de sperme. Les instincts enfièvrent le corps qui, ignescient, transmet son feu à l'écriture du misosophe belge. Cette dernière, l'écriture, peut dès lors à son tour être appréhendée comme une pratique de l'incendie, selon une formule que l'on retrouve dans Cahiers caniculaires. L'enfièvrement du corps, opéré par les instincts, provient du rythme, ce battement des tréfonds qu'il porte et qui constitue le noyau vital de l'être pour Moreau. L'écriture de l'indomesticable auteur est ainsi la traduction de ce rythme, de même qu'elle est, dans un même temps, mode d'accès aux instincts. Autrement dit, la pulsion, inhérente à l'instinct, se mue chez Moreau en rythme. Le rythme est pulsion. Notion fondamentale et entité révérée au sein de l'œuvre de l'écrivain belge, il constitue donc le cœur, le principe moteur, féroce, inexorable, fondateur, pour reprendre les termes de l'auteur, le principe moteur donc de sa poétique. Spasmodique, il compose, pour reprendre un syntagme que l'on retrouve dans Morale des épicentres, la dynamique dynamitante de son écriture, et il permet qu'à l'instar d'un corps, elle respire, frissonne et fulgure. Le rythme se présente par ailleurs pour Moreau comme une nouvelle forme de raison convertie au vertige. À la fois forme et flux pathique, continuum d'intensité ou d'énergie affective, le rythme est à comprendre suivant la perspective établie par Henri Méchonic, c'est-à-dire comme une organisation du sens, une force du langage. Éminemment affectif, il serait ce tempo que tout être humain possède en lui et qui a vocation pour Moreau à le libérer de la part croupissante de son être, à le porter vers le haut donc, à l'exalter. Aussi, il peut, acméique et flamboyant, être approché de l'excessus nietzschéen qui renvoie à une surabondance de vie, à un excédent de force. Le rythme, pouls des profondeurs, anime autant qu'il s'anime de la brûlante et soulevante énergie des mots. Outre leur ancrage charnel, l'écriture et les mots de Moreau paraissent donc exaltés et en situation de débordement par leur mise en situation rythmique. L'auteur belge, pour qui tout est affaire de palpitation, conçoit cette dernière de deux manières métaphoriques différentes, mais qui s'avèrent complémentaires. Soit le rythme est appréhendé comme un souffle, comme le, je reprends ces mots, conducteur pulmonaire de l'absolu, dit-il dans le chant des paroxysmes, et donc comme une musique, l'enivrante musique de l'être, soit le rythme est perçu comme saccade et bondissement intérieur, comme une danse. Aussi, dans Le charme et l'épouvante, Moreau expose son dessein de donner à la pulsion brute la forme raffinée d'un chant, de glisser du fracas primordial à une musique douée pour le traduire. Tandis que dans Kamal Alam, un de ses romans, enfin, qui est plus qu'un roman, il insiste sur une visée que l'on pourrait dire plus chorégraphique. Je cite « Mon premier souci est donc de faire passer la rythmique des idées, leur griserie, leur vitesse, leur capital viscéral, dans l'organisme trop guindé, trop sobre, trop solennel du français, d'obliger ainsi ce dernier, à travers la musicalité du style, soit à tressaillir, le frisson courant sur l'échine de la phrase, soit à précipiter l'allure, soit encore à sortir, ne fût-ce que légèrement, de ses mots. Fin de citation. L'incantation que représente le poème issu de l'ultime chapitre des arts viscéraux, sur lequel je vais m'appuyer comme matériau exemplatif dans le reste de ma communication, accomplit concrètement ce projet. Stance articulée autour du mot rythme, il convient de le souligner, on voit ici encore une fois que le rythme est fondamental. Le rythme en constitue le premier mot, comme vous pouvez le voir ici, ainsi que le refrain prédominant de la stance. Le poème se présente dès lors comme une parole qui danse, qui ose, qui ouvre. En effet, venant faire brusquement exploser la prose des deux premières pages du chapitre, il ouvre la pensée à une forme alternative, la forme versifiée, poétique. Donc vous voyez, on passe vraiment très clairement d'un texte en prose à un poème. Déployant une écriture marquée par une intensité percepto-expressive, pour reprendre une formule de Jérôme Gamme, il est ainsi mis en musique et en danse d'une pensée, mis en musique et en danse de l'être. Je cite « Rythme, fait que je tourne, que je tourbillonne dangereusement, que de sueur j'ordonne le grand déferlement. Rythme, mets en moi le mouvement dansé, guerrier, bachique, qui vipère le cou, qui liane les bras, qui négresse les hanches, qui panthère les reins, qui gazelle les pieds. Rythme, dénoue mes entrailles, souffle en elles, ce sont des flûtes, des saxophones pour bouche d'ouragan. Prête ma gorge à Dieu et à diable, donne-lui la voix rauque, infernale et divine des fauves dépossédés. » Fin de citation. Depuis le chant qu'il constitue, ce poème ouvre à la perspective d'une danse des mots, à leur mise en transe, à leur détraquement, et ou, dans le vocabulaire de Moreau, à leur désaxation et à leur sismicitude. Se présentant telle une houle de par ses volutes verbales, il semble mu par un esprit de trombe et une certaine improvisation. Le poème, qui se termine sur le syntagme absolu-absolu, s'apparente ainsi à un jazz de sensations fortes, pour reprendre un syntagme de Millevoix-Rauque, un des essais de Moreau. Il s'inscrit dès lors dans la pure lignée des textes de Moreau que ce dernier décrit comme, je cite, « dense et tumescent, à s'en faire sauter les ligatures syntaxiques ou grammaticales », étant composé de grands mots bourrés d'explosifs, de mots possédant un poids de sauvage volupté, une charge détonnante. En effet, déferlant, orageux, le flot verbal se fait lave, se fait galop infernal, ainsi que le donne à voir l'agencement des vers du poème. Affirmant une parole libre et disruptive, le poème, quasi chamanique, représente ainsi un exemple concret de la lingua impetuosa, cette notion syntagmatique inventée et théorisée par Moreau dans Une philosophie à Coudrin, qui renvoie, je cite, à une langue incoercible chevauchant la langue maternelle, une langue éructante, libre, pétulante et saltatoire, qui surgit comme un diable, syntaxe au vent et grammaire de même, et vient ébranler sur son passage la force détonnante des lieux communs et des idées reçues. C'est plus encore une écriture ivre, titubante, dont fait montre le poème, dès lors que toute danse est ivresse, ainsi que le défend Paul Valéry. Au demeurant, Moreau se présente, dans son livre intitulé « Monstre », comme viscéralement et spirituellement ivre. Et dans ses cahiers caniculaires, comme un écrivain, lui-même met en avant cette partie du mot, en quête, dit-il, de l'ébranlement ébriétaire. Aussi, dans son œuvre dionysiaque, c'est-à-dire du désordre régénérateur suivant la perspective dressée par Michel Maffesoli, l'ivresse coïncide avec la lucidité et la perturbation est signe de préscience. On est alors confronté à une écriture de la dérive au sein de laquelle est dégagé le vin puissant des mots pour reprendre un syntagme d'une philosophie à Coudrin, à partir du moment où, comme le soutient Daniel Klebaner, je cite, « la dérive est l'ivresse, la divagation, le dérèglement des sens, le délire, l'association de fantasmes. Une ouverture de la conscience conçue comme une hémorragie plutôt que comme un accueil. La dérive est la déviance, le non-conforme, ce qui n'entre pas dans les normes. » Fin de citation. En effet, le poème s'engage dans une dynamique nomade où le, pour encore une fois reprendre les mots de Moreau, le sensoriel appelle le démentiel. Moreau, qui prône les arts commotionnants et jubilatoires, s'inscrit dès lors dans la lignée de Nietzsche, pour qui l'ivresse donne à l'œuvre d'art sa forme. En effet, pour le philosophe allemand ainsi que l'a souligné Paul Audy, la forme de l'œuvre d'art, c'est l'ivresse en tant que don. Plus qu'un banal chant ou qu'une simple danse, on pourrait dès lors appréhender le poème comme un flamenco verbal. Cette danse à l'énergie dionysiaque se trouvant sous l'emprise du duende, qui fait la part belle à l'improvisation, à l'ébullition, au vertige et au lâcher-prise. Par ailleurs, le flamenco, à travers le taconeo qui en constitue un des mouvements phares et spécifiques, est une danse ancrée dans le sol, qui part du sol du tellurique. Or, dans l'œuvre de l'auteur belge, le sol et le sous-sol représentent une image déterminante qu'il relie aux instincts, ces derniers composant ce qu'il appelle le sous-sol pulsionnel humain. En tant que danse enracinée dans les profondeurs, en tant que danse que les instincts animent par leur violence déréglante, nourrie par une folie qui, je cite, « fonde, irrigue, embrase », il n'est donc pas anodin que Moreau la choisisse comme forme archétypale de son écriture. Le délire du talon a la valeur d'une main battante dans les entrailles, gâche-t-il dans les arts viscéraux. Dans le poème, le mouvement du taconeo passe par les nombreuses répétitions de sonorités, de mots et de syntagmes qui impriment une musicalité de l'ordre du martèlement à l'ensemble de la stance. Je cite « Prends mes jambes, fais-en des roues. Prends mes roues, fais-en des bolides. Prends mes bolides, fais-en des éclairs. Prends mes éclairs, fais-en la folie. Partout, découds-moi. Ne me recoue qu'avec des rayons solaires, 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 qu'avec des saguets tribales, 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 qu'avec des stridences baroques, baroques, baroques. » Fin de citation. En outre, Moreau accrédite explicitement le flamenco comme le ferment palpitatoire et dionysiaque de sa poétique. Je cite, « Avec le flamenco, c'était la première fois que je prenais conscience qu'existait un art capable de tenir dans sa poigne les trois devenirs du corps insatiable, son feu originel, son feu poétique, son feu propagé. Il me semblait alors que jusque-là, quelque part, j'avais pensé et écrit flamenco sans le savoir. » Fin de citation. Dans les arts viscéraux, il dit aussi « Le flamenco est une des sources les plus profuses de la réflexion rythmique. » Principe myocardique de l'écriture, le flamenco l'irrigue et lui insuffle une vitalité, une force assomptive. Tempo viscéral, le flamenco à la fois représente et aiguillonne la force génésiaque de l'écriture. Dans le poème, le rythme, qui composait le premier mot comme je vous l'ai montré, et le refrain du texte, conduit d'ailleurs à l'orgie. Ces deux mots sont graphiquement mis en écho par l'utilisation de lettres capitales et du mode exclamatif, tandis que les vers prennent la forme d'un magma vibratoire pétri de sexe et de désir. Je cite « Suis en fulgurance, en projectile, en roulement de tonnerre, en éjaculation de sardanapale, orgie tu nais, tu es belle, tu vas me plaquer au sol, orgie, magie rubiconde, mamelle d'étincelle, bourrique aux yeux de fournaise, qui tourne boule, orgie en ma tête, orgie en mes reins, apogée de mes déboussolements. » Fin de citation. Moreau, à l'instar du danseur Israël Galvan, dont Georges Didier Huberman a analysé et commenté l'art dans Le danseur des solitudes, fait travailler, je cite, fait travailler ensemble dislocation et suavité, rupture et connexion, contraste et continuité, effet de fragmentation et effet de flux. Chez lui, le flamenco compose le mouvement même de l'exaltation, de l'ibris, de la liberté et de la vie, mais aussi d'un retour aux sources, c'est-à-dire aux instincts, ce monde souterrain et ruquillant que Moreau estime au commencement de toute vie. Et qu'est-ce d'autre qu'une vraie vie, sinon pour l'homme, habiter son ampleur, sa démesure réelle, au lieu de végéter dans sa petite dimension, cadastrée et raisonnable ? S'interroge Marcel Moreau dans Morale des épicentres, lui pour qui la démesure constitue une valeur fondatrice, essentielle, nécessaire, comme vous l'aurez compris, je l'espère. Cette perspective, il n'a cessé de la défendre et de la faire sienne à travers la publication de plus d'une cinquantaine d'ouvrages qui lui ont permis de développer une œuvre tempêtante, paroxystique, battante et gonflée d'obsession à, je cite, « l'énormité baroque, bulbeuse, insensée ». Pétaudière lyrique, chaudière de vocabulaire ébouillanté, et je pourrais en citer une série d'autres, elle est un royaume informe et rythmique au cœur de son univers des hissements et des haussements. Comme l'intempérant auteur belge le proclame dans Monstre, on ne s'y emmerde pas dans l'univers de Moreau. On a toujours une barbarie à ressentir, une ivresse à savourer. Aussi, ces textes, chants époumonés, rauques, avides d'âpres chevauchées, ne sont pas tout à fait des récits, mais bien plutôt, comme le propose Jean Dubuffet dans une autre de ses lettres, des ruées de mots. Ces derniers, viscéraux astraux, y constituent une sorte de ballet séminal, glandulaire et grouillant, un cante rondo qui permet de dire l'insensé débordement de la vie, son caractère trépidant, son incommensurabilité. Par la forme flamenca, Moreau a donc pu ériger une écriture éminemment pathique, au corps inéduqué et au souffle inépuisable, qui peut être également vu comme un art brut littéraire permettant de mettre en lumière la flamme fauve de l'être, sa puissance exaltatrice. Merci pour votre attention.